Rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose de manière fortuite ou non sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. Rencontre avec Maître au monde de Chloé Corman. J'ai rencontré Chloé Corman à Faites lire au Mans et je l'ai interviewée en direct grâce à la FRAMA, la Fédération régionale des radios associatives Maine-Anjou. Merci beaucoup Chloé Corman d'avoir accepté notre invitation avec les radios de la FRAMA. Chloé Corman, vous êtes l'autrice notamment des Presque Sœurs, qui a été finaliste du prix Goncourt. Et aujourd'hui, vous venez de sortir un magnifique roman qui s'appelle Maître au monde. Merci d'avoir accepté cette invitation encore une fois. Merci en particulier pour les livres que vous écrivez qui font vraiment beaucoup de bien. Ma première question, pourquoi avoir choisi déjà le titre Maître au monde ?
D'abord, merci Sandrine Veil, je suis très heureuse de vous retrouver, hein, parce que pour nous, c'est des retrouvailles et j'ai un souvenir très ému d'avoir vous rencontré un jour vos élèves autour d'un précédent livre et d'un échange très... Qui mettait beaucoup de chaleur dans le cœur. Mettre au monde, c'est un acte qui se partage, qui est celui des mères à travers l'accouchement. Et c'est celui des femmes qui les accouchent, hein, puisque ce sont la plupart du temps des femmes qui mettent au monde les bébés. Et dans ce roman, je raconte l'histoire d'une sage-femme et d'une historienne, car je voulais raconter cet acte de mettre au monde dans son caractère immémorial. Une historienne donc, qui porte toute cette mémoire, qui tombe enceinte alors que elle, en tant que spécialiste, hein, puisque quand on est chercheuse, on a ses spécialités, elle est spécialiste du non-maître au monde, de l'histoire de l'avortement, du combat des femmes des années 70, du comment on a accédé à cette première génération de femmes post-75, on va dire, avec la loi Veil, qui étaient des enfants nés du choix, nés de la possibilité d'avoir ou de ne pas avoir des enfants. Et tout cet arrière-plan et celui de la possibilité que mettre au monde, ce soit l'expression d'un désir. Et tout le roman est une rêverie et une réflexion sur ça.
Alors, la photo qu'il y a sur la première de couverture, c'est vous qui êtes enceinte. Moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait à travers à la fois le personnage de Jill, la sage-femme, et puis de Marguerite, la chercheuse à l'université, que c'était vous à chaque fois. qu'on était du côté, même si on est clairement dans un roman, qu'il y a une part d'autofiction.
Je me suis distribuée dans ce livre, ici et là, comme les morceaux d'Isis, ou je ne sais pas comment dire. J'ai voulu retrouver une sensation vraiment vertigineuse, incroyable, de mes accouchements. En fait, ce livre, peut-être sans le savoir, je l'ai commencé en 2018 quand j'ai eu mon premier enfant. Et l'impression que ce que je vivais, du point de vue sensoriel, émotionnel, philosophique, je n'arrivais pas à le retracer. Enfin, j'ai pris des espèces de notes envolées, déchirées, éclatées, mais par manque peut-être de précédents, je ne prétends pas être la première. Il y a des précédents littéraires, il y a des représentations, mais trop espacées pour informer l'expérience quand on la traverse. Et je voulais parvenir à une sorte de dispositif pour remonter le fil de ma mémoire. Et pour ça, j'ai confié cette opération à deux femmes que j'ai voulu dans une des grandes techniciennes, des grandes techniciennes, techniciennes de l'histoire, techniciennes du soin avec la sage-femme, et peut-être grâce à elle d'opérer un retour en arrière dans ma mémoire et mes sensations, l'une étant plus une espèce d'avatar d'écrivaine, hein, l'historienne, et l'autre, mais qui est une femme célibataire, une amoureuse très libre dans sa vie privée. L'autre, la sage-femme, une mère de deux enfants, ce qui était mon cas quand j'ai commencé à écrire le livre. Donc c'est elle qui a cette part d'intimité en elle. Et voilà, peut-être du fait que aujourd'hui une femme qui accouche en 2025, quand elle va à la maternité, on doute à peine que ça se passera bien, mais pourtant tout ça, ça éclipse tout ce qui reste, le risque réel de l'accouchement, le risque de mortel, le risque de handicap, la douleur, le manque de représentation à soi-même. Tout ça qui fait que en fait, c'est une expérience qui manque à être représentée. Ouais.
Donc il y a vraiment une part très très poétique, hein, justement à partir de ces deux personnages, mais il y a aussi une part très politique et drôle. Il y a un personnage dont j'ai oublié le nom, qui est une ministre de la Santé, je crois, ou quelque chose comme ça, qui est, j'ai l'impression qu'elle réunit tous les personnages qu'on connaît actuellement, et c'est à la fois drôle et en même temps tragique.
Oui, alors Laure Pasquet, ministre déléguée aux droits des femmes, elle a de qui tenir. Le personnel politique n'a pas manqué d'exemple pour la construire dans tout son cynisme. Et je suis très heureuse que vous trouviez que la part politique du livre est drôle, parce que des fois, un certain désespoir me gagne, mais j'avais pas envie de laisser cet affect prendre le dessus. J'avais envie de plutôt tourner en dérision un certain l'instrumentalisation des causes, l'espèce. Il s'agit du cinquantenaire de la loi Veil, et les commémorations ont toujours une dimension scientifique, avec des historiens comme mon historienne du livre, Marguerite, qui ont des choses précises, documentées, à dire dans les silences de l'histoire, et des politiques qui ont autre chose à en faire. Et il y a aussi un arrière-plan dans tout ce qui est la part politique du livre, qui est l'histoire des combats des femmes. Cette histoire des combats des années 70, qui est le sujet principal des recherches de Marguerite, qui est la découverte de solidarités anciennes qui ont réussi, des combats qui ont réussi. Et je pense que c'est un cadeau du passé que j'étais heureuse de retrouver. Avec leur part d'amertume, ces combats, de blessures, mais quand même un leg réussi. Et puis, c'est quelque chose peut-être pour faire face aussi au présent. Et voilà, mes personnages, c'est une mère de deux enfants, une future mère pour la première fois. Et mettre au monde, c'est toujours mettre au monde ici et maintenant. J'ai écrit ce livre entre 2023 et 2025 dans un sentiment d'angoisse et d'inquiétude profond par rapport à l'atmosphère de guerre, par rapport à certaines violences actives dans nos sociétés, par rapport au racisme, par rapport à la biologisation, l'instrumentalisation des femmes, à la désaffection de certains services publics aussi qui manquent aux femmes. Et je voulais raconter cette attitude de mère devant mettre au monde ici maintenant, et comment à la fois on peut accueillir ce monde extérieur, ne pas laisser la peur. Ça, Gilles, la sage-femme, le dit très clairement dans Une nuit d'insomnie, ne pas laisser la peur prendre le dessus, ce qui rajouterait encore un tour de vis à cette atmosphère. Donc, c'est effectivement ce que vous avez dit sur aussi être capable de se moquer de certaines attitudes politiques, et puis de raconter, et puis de représenter, et puis de nouer des amitiés. C'est tout ça aussi que j'ai voulu raconter comme une réponse.
Oui, c'est-à-dire que moi, j'ai vu beaucoup de liens très forts, je dirais même de sororité entre les femmes, la mère de Gilles, et même entre ces deux femmes, en fait, puisque elles finissent par se rencontrer. On ne veut pas dire dans quelles circonstances, mais elles finissent par se rencontrer. Et j'ai trouvé que, à la fois, le rire et le lien, on va dire, l'amitié, fait qu'elles réussissent à surmonter la situation angoissante et aussi continuer à avoir envie qu'il y ait un avenir et qu'il y ait des enfants qui naissent.
Bah, c'est tant mieux si c'est l'écho qui demeure à la lecture du livre. Et j'ai voulu, effectivement, deux femmes, on les rencontre en parallèle, elles se frôlent plus qu'elles ne se rencontrent. Mais parce que je ne voulais pas trop préméditer les choses, je voulais que ce livre soit un hommage au présent tel qu'il arrive. Et les rencontres surgissent, elles ne sont pas toujours prévues. Je voulais que un sentiment de surgissement, de surprise, d'inattendu prenne le dessus pour que le ton du livre soit une sorte d'hommage au présent, à l'apparition presque des enfants qui sont des modifications du temps et parfois de ce qui est anciennement austère, hostile, mais qui peut être changé parfois en une seule seconde.
Merci beaucoup Chloé Corman pour tous vos livres et particulièrement celui-là. Enfin, en fait, à chaque fois, je suis dans la joie de la lecture et dans la consolation de la lecture aussi.
Merci beaucoup Sandrine.
Merci.
Bonne journée.
Lecture d'un extrait de Mettre au monde. Il s'agit d'un passage qui se situe aux trois quarts du roman lorsque Jill, sage-femme, réfléchit à l'actualité. Dans sa veille, elle se sent floue, à la fois incapable de réfléchir et assaillie par une lucidité excessive qui tranche sa fatigue et la maintient debout bien au-delà de ses forces. Zombie, elle scrolle les actualités sur son portable à la recherche de quelque information qui l'aiderait à mieux comprendre la journée qui s'achève, comme si tous ses faits et gestes éparpillés dans le monde extérieur pouvaient apporter une compréhension quelconque à sa journée à elle, un éclairage à sa confusion et à sa torpeur. La composition de son réseau social l'amène à coup sûr à croiser, en premier lieu, des groupes de sages-femmes publiant des informations sur les gardes à pourvoir, des vacations à échanger, des cycles de formation. Dans ce sillage, il y a des photos de bébés, des remerciements que de nouveaux parents adressent à telle ou telle maternité et les mots d'ordre de certaines mobilisations contre la fermeture d'un service pour des dotations à obtenir. Et d'une publication à l'autre, elle tombe aussi sur les dernières nouvelles de celle qu'en son fort intérieur, elle nomme juste la ministre. Laure Pasquet est si furieusement prodigue qu'il n'est pas de jour sans que Jill la voie surgir dans son fil d'actualité. Elle l'avoue, les organisations professionnelles de sages-femmes, le planning familial, les associations d'aide aux patientes ne peuvent s'empêcher de relayer la moindre de ces déclarations que des déluges d'émoticônes et d'ironies ne semblent guère atténuer et qui, malgré les mois passés, conservent tout de même quelque chose de mystérieux. Jill se demande quand la ministre affirme certaines choses si elle y croit vraiment elle-même. mais toute la profession a aussi pu constater à quel point elle était capable, envers et contre tous les démentis, quelles que soient les preuves qu'on lui apporte sur quelque ton que ce soit, de maintenir ses propos, avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Au moment de la prise de fonction de Laure Pasquet en tant que ministre chargée des droits des femmes, les collègues de Gilles et l'ensemble de la profession l'avaient pourtant accueillie sans préjugés. Elles avaient l'habitude de suivre ce qui se passait avenue de Ségur au ministère de la Santé, par exemple, les réformes récentes qui avaient étendu leurs compétences à l'échographie ou aux avortements, ou bien la gratuité pour les jeunes des tests de maladies sexuellement transmissibles, pour citer des circonstances positives et plus souvent malheureuses, telles les fermetures de maternité ou les baisses de personnel. Les droits des femmes, qu'ils soient représentés par un secrétariat d'État ou un ministère délégué comme c'était le cas actuellement, n'avaient pas souvent un impact aussi concret. Il demeurait sous la tutelle de la santé et c'était de notoriété publique un gadget pour faire croire que l'on s'occupait des femmes et qu'on donnait toujours, à la fin de la tournée, des portefeuilles pour une quelconque affamée restante. C'était encore sous-estimer l'affamement de la ministre qui était prête pour l'occasion à transcender son passé. En matière de féminisme, elle avait revendiqué quelques bases, même si sa carrière avait été plutôt orientée vers les cadres dirigeantes et les entrepreneuses que vers les sages-femmes et les patientes. Des programmes de coaching pour la prise de parole en public, une pépinière de bourses féministes fondée avec quelques grands groupes ou bien des women's forums où l'on mangeait des bobounes végétariens en cherchant des stratégies pour que les épouses d'expatriés puissent rattraper des points de retraite. Son expérience en tant qu'épouse à Dubaï était d'ailleurs la clé de voûte de son engagement féministe. Elle avait à l'époque fondé une association d'aide au dialogue interculturel pour les employeuses avec leurs employés de maisons immigrées, où elle dispensait des conseils, l'édition d'un guide ainsi qu'une hotline pour un management sur mesure en fonction des origines des femmes de ménage. Elle recommandait par exemple la bonne distance à avoir pour ne pas effaroucher les Asiatiques ou les cadeaux bien sentis pour toutes les femmes originaires de la péninsule arabe et d'Afrique. Il n'y avait donc rien là pour les sages-femmes. Mais bien contre leur gré, elles avaient été obligées de dresser l'oreille quand Laure Pasquet avait parlé du phénomène de baisse de la contraception médicamenteuse chez les mineurs et de recours compensatoire excessif à l'IVG, surtout dans certaines cultures. Que des mots, avait-elle d'abord pensé. Mais elles avaient vite reçu des circulaires énonçant des consignes au sujet de la prévention qui étaient si ineptes, sans aucun rapport avec les statistiques non financées et, même si elles l'avaient été inapplicables pour le suivi des patientes, qu'elles avaient fini à la poubelle. Cependant, le mal était fait. Elles n'arrivaient plus à ignorer la ministre. Elles avaient suivi sa longue campagne contre le harcèlement de rue et les problèmes libidinaux et agressions sexuelles qui étaient devenus, là aussi, culturels. Aussi longtemps qu'on l'avait alertée 600 fois, sur les besoins financiers des associations d'aide aux victimes, elle n'avait rien fait. Mais les clés de bras, les points dans la figure, les cocards et les déchirures des muqueuses n'avaient eu aucun effet sur les dotations pour les appartements d'urgence. Mais la découverte du corps d'une étudiante suppliciée dans le bois de Boulogne et l'arrestation de son bourreau, un homme musulman sans papier, avaient été pour la ministre un vrai déclic concernant la violence masculine. Elle avait fait le tour des plateaux télévisés, auréolée d'éclairs. Elle s'était passionnée et avait soudain trouvé un zèle de cavalière pour ses allées obscures pleines de putes sans papier. Celles-là même sur lesquelles les services de maraude des hôpitaux de l'ouest parisien essayaient d'attirer l'attention depuis des mois, demandant des régularisations d'urgence à même de les sauver du chantage et de leurs souteneurs, mais dont les courriers ne lui étaient pas parvenus. Les sages-femmes avaient écouté ces interventions télévisées en faveur de l'expulsion des citoyens étrangers auteurs de violences sexuelles et sans plus de commentaires, elles avaient continué d'assurer sans préjugés des consultations violences, débordant de victimes de maris cogneurs, de copains violeurs et d'oncles incesteurs de tous les âges, de toutes les origines et de toutes les religions. Cet été enfin, Gilles découvre que la ministre passe un cap dans sa recherche éperdue d'amitié, surtout certaine, et son envie d'en découdre avec la gloire. La dépêche qu'elle lit depuis son canapé à 2 heures du matin lui apprend à présent qu'il existe
un contraste choquant entre certaines familles trop nombreuses, bénéficiaires d'allocations familiales, et la situation de certains couples, subissant une pression économique qui les entrave dans leur désir d'enfant, alors qu'ils sont pourtant mieux insérés. La ministre veut faire quelque chose contre ce scandale. En effet, quand il y a des excès d'un côté et un manque de l'autre, c'est bien simple, il faut une politique de sanctions et d'incitations. Gilles, elle, voit des hommes et des femmes inconnus changer en cible. Femme bleue dans la lumière LCD de son smartphone, pâle et électrisée, elle atteint leurs dépensées en rebond et cascades les plus incontrôlables, les plus sombres, et elle ressent dans ce communiqué une forme d'attentat vis-à-vis de la patience, des gestes et des pensées de sa profession, d'autant plus ravageurs qu'il ne s'avoue pas. Elle se lève pour se faire une tisane, essayer de se calmer. Et pour se calmer, elle se relance dans d'autres boucles de réseaux sociaux. Après la ministre, elle en arrive sans s'en rendre compte aux deux guerres. Comment fait-elle ? Pourquoi ne plutôt pas s'emparer des albums de Cornebidouille ou de la fabuleuse histoire de la poire géante qui traîne à côté d'elle sur le canapé, ou aller enfin prendre une douche et implorer l'oubli sous l'eau chaude ? Elle scrolle et lit les commentaires, ouvre les liens, lit encore. Les nouvelles des deux guerres lui parviennent, là aussi, au filtre des réseaux professionnels. Donc elle a beau savoir qu'il y a aussi les adultes, les vieux, les militaires des deux sexes, les humanitaires, les journalistes, les photographes. Tout cela qui souffre ou tente de porter remède à la souffrance, et ceux qui cherchent à l'augmenter. Les êtres humains qui lui parviennent à elle n'effacent pas tous les autres, mais elle a d'eux une vision primitive, la condition invisible sans laquelle sinon rien. Ce sont celles et ceux des maternités éventrées, des pouponnières improvisées, les appels au secours des collègues sur le terrain, les plus d'eau potable ou plus de lait, les 10 césariennes en urgence dans la journée et les mots que des prématurés ou perte de chance. Elle sait que cette image qu'elle reçoit n'est pas toute l'image, que l'onde du présent traverse tous les âges de la vie, mais elle n'y peut rien. Ceux qui s'échouent devant elle ne sont âgés que de quelques jours à peine. À cet endroit, elle se tient et se perd, à parcourir ses informations dans le silence de son appartement et à connaître tous ses morts-nés, à voir venir à elle une armée d'hommes et de femmes réclamant la vie qu'ils n'auront pas. Chloé Corman a écrit dans mon livre « Pour Sandrine, au combat » et au bonheur de mettre au monde soi-même et les autres. Merci pour ton amitié et ta présence d'accoucheuse de récits, de joie. Je t'embrasse, Chloé. C'était ma rencontre avec Mettre au monde de Chloé Corman.